Matière à penser, Dominique Rousset.
Bonsoir à tous, c'est le dernier épisode de notre série « Tout va très vite, une année d'accélération ». C'était le thème de cette semaine pour clore la saison de Matière à penser. Un sentiment partagé avec nos invités d'un emballement dans les différents domaines que nous avons parcourus ces derniers mois, qu'il s'agisse de la toile avec l'emprise des GAFA ou les partages d'informations sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse de la dégradation plus rapide que prévu de la nature et du climat, soulignée par plusieurs rapports, ou des inégalités sociales et environnementales, ou encore des formes que prend le tourisme dont nous avons parlé hier, étrange manifestation de tous les autres symptômes. Et ce soir, pour conclure donc cette série, il sera question de finances, sans laquelle aucun programme sérieux de développement ne peut être envisagé. Problème, elle aussi s'est emballée, elle est toujours pressée, elle veut des résultats rapides, elle est bien difficile à contrôler. Or, soutient mon invité de ce soir, il est temps pour elle de ralentir et de penser au long terme. En clair, d'accompagner la transition énergétique. Bonsoir Étienne Espagne.
Bonsoir Dominique.
Et notre titre, que je vous vole d'ailleurs, « Climatiser la finance pour financer le climat ». Étienne Espagne, économiste, docteur en économie de l'environnement, actuellement au département de recherche de l'Agence française pour le développement. On en dira un mot un peu plus tard, plus en détail, et qui défend le même credo avec constance dans ses travaux au Centre d'études et prospectives internationales ou à France Stratégie sur cette question du climat et surtout du rôle de la finance. Étienne Espagne, qu'est-ce qui ne va pas avec la finance? Je l'ai dit très brièvement, vous allez nous en dire beaucoup plus.
Alors, il faudrait remonter pour répondre à cette question un petit peu avant la COP21. Et en fait, on avait...
2015.
2015, voilà. Décembre 2015. Et jusqu'à cette date-là, on avait deux univers qui s'ignoraient à peu près totalement. Les économistes du climat parlant essentiellement de prix du carbone comme but ultime de toute politique climatique et... que ce soit les financiers eux-mêmes ou les chercheurs en macroéconomie financière, etc., ignorant superbement toutes les limites écologiques qui pouvaient éventuellement survenir dans un avenir proche ou moins proche et impacter évidemment fortement les dynamiques financières, les dynamiques macroéconomiques qu'ils analysaient. Donc ces deux mondes s'ignorent et puis survient la COP21, ou plutôt un mois avant, ce discours assez fondateur du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, Mark Carney, et qui pour la première fois met sur la table cette question climatique pour la sphère financière. Donc c'est un premier point d'accrochage entre ces deux mondes. Et à partir de là, les choses s'accélèrent relativement. La COP21 inscrit donc à l'article 2 de l'accord de Paris comme objectif l'alignement des flux financiers avec les objectifs d'atténuation, d'adaptation de tous les États signataires. C'est une phrase très courte, très laconique, mais qui derrière peut cacher beaucoup de transformations en réalité. Et ensuite, il va s'agir finalement de donner du concret, de donner des pistes pour réaliser cet alignement. Et donc les initiatives se multiplient du côté de la sphère financière privée, du côté des chercheurs un petit peu également, du côté des banques de développement également.
La première surprise au fond, c'est pourquoi si tard, 2015 quand même. Je faisais mention de vos travaux depuis quasiment que vous écrivez, ou je ne sais pas si c'était même une thèse, je ne sais pas. En tout cas, vous avez toujours soutenu cette idée et vous n'êtes pas le seul. Michel Aglietta, beaucoup de grands économistes français et bien sûr étrangers le disent depuis bien longtemps. Comment se fait-il que la finance n'ait pas pris conscience plutôt, y compris de son propre intérêt à aller dans ce sens?
Alors là aussi, il faut remonter encore un peu plus loin que la COP21, si je peux me permettre.
Cet aveuglement est quand même étonnant.
Voilà, et l'aveuglement sur le rôle moteur de la monnaie et plus largement de la finance dans la dynamique des formes de capitalisme, cet aveuglement, il a perduré jusqu'à la crise de 2008. Et là, on s'est aperçu que les bilans financiers avaient un rôle non neutre dans la direction prise par les économies, parfois ils pouvaient conduire à des booms et d'autres fois à des crises parfois systémiques. Et donc la crise de 2008 réinscrit la finance au centre de tous les débats pour comprendre les dynamiques économiques. 2008, c'est aussi l'année d'un lourd échec dans la négociation climatique. C'est la conférence de Copenhague, plus exactement 2009, mais c'est très proche. Et à Copenhague, on échoue à se mettre d'accord sur une action coordonnée face au changement climatique. Donc, en fait, on a une peut-être par un hasard de calendrier, mais la conjonction de deux crises. Et rapidement après, les débats commencent pour se poser la question de savoir si ces deux crises ne sont pas en réalité liées et ne doivent pas être résolues ensemble. C'est-à-dire les réformes structurelles du secteur financier pour permettre d'accomplir les transitions bas carbone nécessaires.
Ouais. Est-ce qu'on peut ajouter aussi quelques grandes catastrophes climatiques auxquelles nous avons assisté aux États-Unis notamment? Alors bien sûr, l'arrivée du président Trump aux États-Unis complique encore un peu la donne, mais vous le faites observer, le système des marchés, des banques, des assurances est très exposé aux conséquences du changement climatique. Qu'est-ce qui se passerait, dites-vous, s'il y avait 3-4 ouragans Katrina sur une seule année ou même chaque année?
Alors effectivement, il y a bien un secteur qui, lui, depuis longtemps, a pris au sérieux les questions d'événements extrêmes, d'événements climatiques. C'est bien le secteur de l'assurance, effectivement. Mais cela, jusqu'à récemment, n'avait pas réellement percolé au secteur bancaire, sans parler même, évidemment, du shadow banking ou même des banques de développement, jusqu'à récemment. Donc l'enjeu était vraiment de comprendre à quel point tous ces autres secteurs de la finance pouvaient être concernés et devaient prendre en compte cette nouvelle donne pour réaliser les objectifs de l'accord de Paris, ces objectifs qui sont l'enjeu d'un véritable jeu d'échecs un peu géopolitique avec la sortie de Trump, les scepticismes pour le moins de Bolsonaro au Brésil et la difficulté nous-mêmes à réaliser nos propres objectifs que nous nous sommes fixés.
Oui, elle est là, l'accélération. Hein. Trump et Bolsonaro, effectivement, deux exemples énormes. Bolsonaro au Brésil, c'est quand même assez inattendu et dramatique pour le climat.
Alors c'est inattendu et dramatique. On pense évidemment à la forêt amazonienne qui est un bien commun mondial. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres écosystèmes à préserver, essentiels au Brésil, des écosystèmes de savane, le cerrado brésilien qui disparaissent encore plus vite que la forêt amazonienne. Et tout cela, effectivement, ne donne pas
une vision très optimiste pour les prochaines années. Et il faut mettre tout de suite l'accent sur l'aspect international, c'est-à-dire que nous sommes tous victimes de politiques comme celles qui sont conduites au Brésil, hein, puisqu'on le sait, c'est un poumon très important. Alors Étienne Spahn, si l'on revient donc sur le rôle essentiel des investisseurs, au fond, ce que vous leur conseillez, ce que vous leur demandez, et j'ai cité Michel Aglietta, mais vous êtes plusieurs sur cette ligne-là, c'est de devenir responsable sur le plan écologique, d'aller vers cette transition, vers le financement d'énergies renouvelables, par exemple. C'est peut-être l'occasion de vous demander ce que vous pensez, vous, de la croissance verte et même du développement durable. Nous avons reçu Luc Semal, qui était un peu sceptique sur ces deux termes.
Oui, ça peut ressembler à une contradiction dans les termes, effectivement, et ça a été d'ailleurs construit comme une espèce d'objectif de synthèse impossible dans les années 90. Peut-être un élément tout de même. J'ai dit tout à l'heure que la crise de 2008 était survenue au même moment qu'une crise diplomatique sur les questions climatiques. Ça a donné naissance à certains mouvements de recherche qui essayaient justement de représenter de manière beaucoup plus physique les stocks à la fois financiers mais aussi les stocks naturels et les flux entre les différents acteurs de l'économie par rapport à ces différents stocks. Donc cette approche qu'on appelait le stock flux cohérente a permis une meilleure représentation que celle qui pouvait prévaloir auparavant, assez abstraite, où on avait un agent unique représentatif de l'économie. Je parle là implicitement du modèle standard qu'a proposé Nordhaus, le récent prix Nobel d'économie, le modèle DICE.
Encore un sacré paradoxe d'ailleurs, ce Nobel
un paradoxe, donné à Nordhaus. Effectivement, alors où on peut être heureux qu'un économiste de l'environnement obtienne enfin un prix Nobel de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel. Et effectivement, s'il devait y en avoir un, c'était bien probablement pour Nordhaus, qui était précurseur en la matière. Mais malheureusement, avec un tel prisme théorique qui conduit à Nordhaus à dire que bien une augmentation moyenne de la température mondiale de 6 degrés n'est pas si dramatique que ça, voilà. En totale contradiction avec les projections des climatologues, par exemple.
Voilà, un point sur lequel vous n'êtes pas d'accord, donc qui divise les économistes, c'est important de le faire remarquer. On a quand même des certitudes aujourd'hui, l'ampleur des besoins en investissement pour justement contrer cette dégradation climatique. En France, dites-moi si les chiffres sont toujours corrects, mais 10 milliards d'euros, je crois, au moins par an, sont attendus pour la rénovation thermique des bâtiments. On sait nous sommes en retard à ce sujet. Et sur l'Europe, car c'est important de parler en termes européens, 200 milliards d'euros sont à trouver d'ici 2020 pour des réseaux énergétiques. Je passe encore sur les besoins d'investissement en infrastructures, de transport. Là, c'est beaucoup plus important, 1500 milliards d'euros avant 2030. Impossible à faire si le secteur financier n'est pas là. Voilà l'exemple typique.
Impossible à faire s'il n'est pas là et s'il n'est pas fortement transformé aussi, de sorte que ces investissements soient intéressants pour lui, soit que l'on pénalise les autres, soit que l'on favorise ceci. Un petit bémol tout de même avec ces chiffres qu'on a tendance à lancer un petit peu dans la nature et qui sont tous plus impressionnants les uns que les autres.
C'est vrai que c'est toujours risqué.
C'est toujours effectivement un peu risqué. Il y a un défaut d'investissement. Il faut accroître les investissements dans les secteurs décarbonés. Mais tout ne va pas dépendre uniquement d'investissement. C'est-à-dire qu'il y a aussi des transformations à faire qui ne nécessitent pas forcément d'investissement ou alors qui ne représentent pas des investissements forcément rentables financièrement, à moins d'aller vers une transformation plus forte encore de la comptabilité de ce qui représente de la valeur pour nos économies.
Vous faites quelques propositions, c'était déjà au moment de la COP21, ne serait-ce que divulguer, parce qu'on a le sentiment qu'il y a vraiment un fossé entre la finance, les grands investisseurs et la réalité telle qu'elle est constatée par des économistes de l'environnement comme vous. Divulguer l'information carbone sur les actifs financiers, sur le contenu en carbone des titres, ce serait déjà un très grand pas. C'est un milieu qui est assez fermé à ces questions, c'est pas simple, non ?
Alors c'est quelque chose qui progresse quand même.
Proposition qui paraît évidente,
voilà, mais il y a un article de loi française qui.
Oui, c'est inscrit dans la loi.
Qui va dans cette direction-là. C'est aussi des recommandations
et dans d'autres
internationales
pays européens
qui se font dans ce sens-là. Donc c'est une chose, c'est un bon pas sans aucun doute. Mais il faut regarder un petit peu derrière la vision de la finance que cela représente. Il y a l'idée que finalement, en rendant plus transparente l'information, les acteurs financiers, les acteurs économiques vont pouvoir prendre les meilleures décisions, des décisions éclairées. Et on va pouvoir restaurer une certaine efficience financière. Donc on a l'idée finalement d'un ajustement à la marge qui permet de restaurer la bonne allocation des capitaux. Il y a une autre approche un petit peu plus on va dire critique qui prend en compte le bilan de cette crise justement de 2008 et qui dit que la finance est intrinsèquement instable et donc il faut penser à des formes de régulation un peu plus dures. Alors c'est des outils de type macroprudentiel qui permettent eux non pas de rétablir une bonne information de sorte que les agents financiers individuels pourront prendre les meilleures décisions possibles, mais qui vont dire, voilà, le secteur financier doit aller dans cette direction-là et nous allons collectivement décider qu'il aille dans cette direction-là via un ensemble de leviers qui peuvent être des ratios bilanciels verts ou autres.
Mais qui concernent aussi, bien entendu, les choix politiques. Il faut qu'ils soient bien affirmés. La question, c'est pour mobiliser les investissements, il faut aussi être capable de leur montrer la voie du long terme. Et là, nous l'avons signalé en titre, c'est difficile. La finance aujourd'hui va vite, très vite. Elle se pose là où les rendements sont les plus rapides.
Alors, il est clair que là, il y a une véritable accélération, effectivement, pour reprendre le thème de cette série d'émissions. Et donc, donner un horizon de long terme à la finance revient un petit peu à ce que je disais à l'instant. Cet horizon de long terme ne peut être que déterminé collectivement et donc par le politique. Et c'est donc vers ce type de réforme de la finance-là qu'il faut procéder pour rallonger l'horizon de temps. Sans quoi l'acteur individuel financier n'a aucun intérêt particulier à regarder le long terme s'il n'y est pas incité par ces différents outils.
Pourquoi les théories économiques, au fond, ne peuvent pas assurer le financement d'une bonne transition écologique ? Parce qu'il y a eu des progrès, vous les signalez, depuis 2015. Mais de votre point de vue, ça n'est pas assez.
Alors, un premier point, c'est tout simplement que pour la plus majeure partie, on va dire, de l'économie standard, la monnaie ou la finance n'est pas représentée. On a affaire à des économies de troc.
On n'est pas dans l'économie réelle.
On n'est pas dans l'économie. Alors, on est dans une espèce d'économie super réelle où la monnaie ne circule pas, quoi. Donc, bon, une économie imaginaire sans monnaie. Alors là, il y a effectivement eu des progrès depuis 2008. On a introduit, disons, le mouvement qui était relativement minoritaire, qui considérait que la monnaie et la finance comme très importante, qui la représentait explicitement dans certains modèles, a pris de l'ampleur, s'est beaucoup développé et il y a des progrès importants qui ont été faits de ce point de vue-là, donc d'une meilleure représentation de la finance, des cycles financiers. Et plus récemment, il y a eu des tentatives de couplage de ces modèles qui représentaient mieux le secteur financier avec une contrainte écologique et plus directement climatique, pour essayer justement d'aller au-delà du discours sur simplement un prix du carbone, un prix du carbone, un prix du carbone.
Oui, avec de vraies réformes fiscales, monétaires.
Fiscales, monétaires complètes.
Des règles prudentielles, etc.
On a pu voir juste en France, hein, avec l'épisode prolongé des Gilets jaunes, que le prix du carbone seul pouvait causer certains problèmes sociaux. Et donc la transition bas carbone est une transition complète.
Et cependant, Étienne Espagne, bien qu'on ait ouvert un rang assez large quand même de possibilités pour engager davantage la finance et l'économie globale, vous dites que ça ne suffit pas. Et peut-être même qu'en mettant un peu trop de confiance dans ces investissements verts, bah, on est passé à côté de la vraie transition énergétique. Pourquoi ?
En fait, on s'est aperçu alors dans ce...
Et vous avez écrit un papier à ce sujet.
Un papier récent avec Romain Schwartzmann et Dominique Dron, que finalement le discours implicite qui ressortait de ces tentatives de modélisation qui incluaient une bonne représentation de la monnaie et la finance, ça restait quand même de dire bon, il faut investir dans le secteur vert, quoi. Bon, avec
très
des
bien,
différents
d'accord.
outils très leviers, sans trop chercher à comprendre ce qu'était ce secteur vert, ce qui pouvait éventuellement poser problème, et puis aussi sans essayer de remettre en cause finalement la représentation même de la monnaie. Or, si on regarde sur un peu plus longue durée que juste les 10-20 dernières années, on s'aperçoit que les systèmes monétaires et financiers n'évoluent pas de manière autonome des systèmes énergétiques. Ils sont souvent très très fortement reliés. Et on peut arriver à déceler des formes de phases de développement de systèmes monétaires et financiers qui correspondent à une certaine relation aux ressources et à la nature, disons ressources surtout. Et donc, si on s'intéresse à la transition bas carbone sérieusement, on va comprendre que notre relation aux ressources, qu'on veut moins exploiter a priori, va impliquer des transformations très profondes, beaucoup plus profondes qu'imaginé.
Vous voulez dire que les grands investisseurs aujourd'hui sont complètement liés aux évolutions des énergies fossiles, de la production d'énergies fossiles?
En grande partie, oui.
Et qu'ils ont beaucoup de mal à s'en détacher, sauf à complètement inverser leur modèle.
Et que probablement, des investisseurs d'un monde décarboné ne ressembleront pas beaucoup à ceux que l'on a aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a une transition, et ça je ne suis pas déterminé, je ne sais pas comment exactement les choses vont se passer, mais ce qu'on observe dans la longue durée, c'est que le système monétaire de Bretton Woods correspond à une certaine domination des énergies géopolitiques, des énergies fossiles, que celles-ci changent radicalement dans les années 70, ce qui peut expliquer en partie la financiarisation très forte des économies à partir des années 80. Et donc, on a une coévolution de la relation aux ressources et à la nature et du système monétaire et financier. C'est ça qu'on voulait mettre en exergue un peu dans ce...
Bien sûr, avec des propositions quand même, mais on imagine à quel point il y aurait une révolution à opérer, sauf à montrer à ces investisseurs qu'ils ont intérêt à le faire. Sinon, ils n'iront pas.
Oui, bien sûr. Alors, il faut montrer qu'ils ont intérêt à le faire. Il faut aussi donc se reposer la question de qui émet la monnaie, qui a le pouvoir de l'émettre, qui peut en déterminer la circulation. Et donc là, on remet au centre du jeu la question des communs. Alors, les communs environnementaux
sont... Les
biens communs que nous partageons tous. Ça peut être des communs très locaux, mais pour le changement climatique, c'est un bien commun très global. Et derrière le financement d'un commun, il y a d'autres structurations du secteur financier. Alors, l'AFD, par exemple, travaille beaucoup sur la question des communs. On a une excellente chercheuse, Stéphanie Leronas, qui développe beaucoup d'applications concrètes des communs, notamment environnementaux. Donc ça, c'est une piste. Et encore, on voit que c'est une piste qui convient de transformer en réalité à différents échelons spatiaux et régionaux.
Quelles sont les oppositions systématiques ? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de scepticisme sur l'évolution justement à laquelle on peut s'attendre en termes de réchauffement climatique? Je veux dire, vous voyez, j'essaie de voir qui s'oppose fermement à cela, ou bien est-ce que c'est parce que la finance est ainsi faite qu'elle est partie dans ce courant entraîné et qu'elle a du mal à se corriger?
Je ne sais pas si la correction pourra venir d'elle-même, entre guillemets. C'est-à-dire, il y a des modèles qui fonctionnent, il y a des intérêts très forts à faire perdurer les choses un petit peu plus longtemps. Donc, les jeux d'acteurs ne sont pas favorables à une transformation. Et ça, c'est une vraie... Bon, la question de la mobilisation qui permettra cette transformation est très importante. Je n'ai pas la réponse. On voit de manière assez inédite différentes formes de mobilisation autour du climat, de conflits sociaux qui ont un peu une nature environnementale également, mais sans pour autant que jusqu'à présent ça débouche sur quelque chose de très structuré et sur un contre-modèle véritablement.
La suite de notre série Tout va très vite, une année d'accélération, dernier thème pour Matière à penser cette saison. Et nous parlons ce soir de climatiser la finance pour financer le climat. C'est la proposition d'Étienne Espagne, économiste, qui est en notre compagnie. Étienne Espagne, on a bien montré comme il était difficile de convaincre les investisseurs d'aller d'abord sur le long terme. Ils ont une tendance à préférer les rendements rapides et surtout à aller vers ce développement, cette transition énergétique sans laquelle rien ne, s'ils ne participent pas, rien ne sera possible. Juste encore un point, bien sûr, il faut aussi adapter la réglementation bancaire à ces dangers du dérèglement climatique et donc faire appel à la fois aux banques publiques, aux banques centrales et aux banques d'investissement et de développement, dont celle pour laquelle vous travaillez. Enfin, c'est une agence d'environnement, vous l'avez cité, l'AFD, Agence Française de Développement, qui est une institution financière et qui met en œuvre toute une politique, celle du gouvernement français, pour combattre la pauvreté, agir en faveur du développement durable. On vient d'entendre cette chanson sur le Vietnam et nous allons en parler. Auparavant, peut-être un mot quand même sur les progrès qui sont faits en matière d'investissement des banques de développement. L'ASEAN, justement, l'ASEAN Investment Bank, en est un bon exemple.
Je pense que les banques d'investissement public et les banques de développement sont sans doute à l'avant-garde des transformations qu'on peut vouloir et qu'on peut souhaiter pour le secteur financier et une transition, j'aime même pas trop ce mot de transition, mais bon, parlons de transition bas carbone réussie. Bon, je vais parler pour l'agence pour laquelle je travaille, hein, l'AFD, qui s'est donné, elle, pour objectif d'avoir entièrement des actions 100% COP21 compatibles. Alors, c'est évidemment un objectif très ambitieux et elle l'a affiché très tôt et ça implique derrière ensuite de se poser la question concrète de comment réaliser un tel pari tout en ayant en même temps un objectif très fort d'augmentation de l'aide au développement et pour rendre tous ces nouveaux investissements compatibles avec les objectifs de l'accord de Paris, donc les contributions que se sont données les États eux-mêmes, mais aussi l'objectif de long terme de 2 degrés maximum d'augmentation tendant vers 1,5 degré. C'est une des, à ma connaissance, une des premières à avoir un tel objectif. Alors, bien sûr, derrière, ça implique une montée en puissance des connaissances, une aide des pays signataires de l'accord de Paris pour comprendre les transformations nécessaires vraiment localement pour mettre en œuvre ces objectifs.
Tout cela est en Espagne avec une aide publique au développement qui reste assez basse, même si pour la France,
pour la France est en très rapide augmentation, à peu près à 0,45% du PIB en 2018 et un objectif de 0,55% à la fin du quinquennat. Donc une augmentation très rapide.
Oui, c'est notable à signaler quand même parce qu'en Europe, la moyenne reste basse. Elle est de l'ordre de 0,21. Et pour l'ensemble des pays riches, elle a plutôt augmenté en Afrique, ce qui est quand même une relativement bonne nouvelle. Elle aurait progressé pas mal pour les pays africains.
Oui, l'AFD y contribue avec une stratégie toute Afrique aussi très importante.
D'accord, donc projet conduit au Vietnam, pays qui a quand même une double caractéristique, à la fois d'avoir une très forte population active, dépendante entièrement de la production de la culture du riz, donc c'est là-dessus que vous êtes parti, et d'être extrêmement vulnérable aux effets du changement climatique, sécheresse, inondations, typhons qui affectent très très sévèrement cette production de riz. D'où le point de départ de votre recherche?
Oui, ce projet au Vietnam fait partie d'un ensemble un petit peu plus large qui vise justement à aider d'un point de vue de la recherche appliquée, on va dire, différents pays partenaires de l'AFD à comprendre les transformations ou les impacts que le changement climatique ou l'érosion de la biodiversité peut générer pour ces pays-là. Donc c'est des projets qui sont toujours co-construits avec le pays, avec à la fois un ministère public, mais aussi des chercheurs locaux et des laboratoires de recherche locaux. Donc ça a été initié par le chef économiste Gail Giraud, et ça a déjà commencé au Brésil, en Colombie, et donc au Vietnam, sur la question des impacts du changement climatique. C'est un pays emblématique parce qu'on considère que c'est un des 5 potentiellement les plus touchés par à peu près toutes les possibilités d'impact climatique, typhons, sécheresses, inondations, érosion côtière, hausse du niveau de la mer, subsidence des deltas, c'est-à-dire l'affaissement du niveau des deltas qui accroît encore l'impact d'une hausse du niveau de la mer. Et face à cela, évidemment, d'abord il faut une première analyse de ces impacts, à la fois économiques, sociaux, et puis comprendre ce que veut dire s'adapter, parce que de toute façon pour le Vietnam, il faudra des stratégies d'adaptation, quels que soient les objectifs de réduction d'émissions que le monde veut bien mettre en œuvre. Pour ça, effectivement, on a commencé à travailler sur la question du riz, qui est au sein du secteur agricole le sous-secteur le plus important et qui occupe, on dit souvent que le delta du Mékong est le grenier à riz de l'Asie du Sud-Est. Mais effectivement, l'objectif est plus ambitieux, plus complet que ça, c'est de dresser vraiment un panorama de ces différents types d'impacts socio-économiques, ce qui n'a jamais été fait pour un pays émergent jamais réellement pour le Vietnam.
Encore un mot sur le Vietnam, quand même, Étienne Espagne. C'est un travail, là, vous êtes économiste, on l'a déjà dit, c'est un travail pluridisciplinaire, ce qui est très important, bien sûr, parce que vous agissez avec les populations locales.
Oui, alors effectivement, pour bien comprendre les dynamiques d'impact climatique, il s'agit de toute façon d'abord de travailler avec des climatologues, mais un impact climatique n'est jamais purement climatique, c'est toujours un phénomène social et économique. Donc on travaille bien sûr avec aussi des économistes. Et pour comprendre comment les gens s'adaptent, pourraient s'adapter, il s'agit d'abord de dialoguer avec les stratégies gouvernementales vietnamiennes, quels sont leurs plans d'adaptation, comment peut-on les évaluer, mais aussi comprendre comment les gens sur le terrain, par exemple dans le delta du Mékong, agissent ou réagissent face aux bouleversements environnementaux qu'ils vivent au sens large. Et on mobilise notamment des anthropologues qui vont essayer de comprendre les perceptions des changements environnementaux, par quels canaux l'information parvient aux personnes et quel type d'informations ils peuvent avoir sur les changements environnementaux, mais aussi comment ces personnes-là réagissent. Il y a le thème qui devient récurrent des migrations environnementales, mais ça n'est qu'un aspect le plus critique et le plus extrême, sans doute, de l'adaptation au changement climatique. En réalité, les gens mobilisent beaucoup de réseaux informels, notamment en Asie du Sud-Est. Et donc, on a notamment un anthropologue spécialiste de ces réseaux informels, Emmanuel Panier de l'IRD, qui étudiera cette mobilisation pour une adaptation aux changements environnementaux.
Des travaux qui seront conduits ensuite dans d'autres régions, l'Afrique par exemple, très, très concernée, comme on sait.
Ah oui, alors en Afrique, on a 3 pays pour l'instant déjà sur lesquels on travaille, la Côte d'Ivoire, le Maroc et la Tunisie, des réflexions sur d'autres pays également, avec à chaque fois une adaptation à la demande du pays. On ne détermine pas nous-mêmes le sujet exact, mais il y a toujours cette co-construction qui est très importante, avec à la fois les ministères, mais aussi les centres de recherche locaux.
Qui vous accompagne, bien sûr.
Qui vous accompagne.
Il faut quand même citer juste peut-être un chiffre. L'effet d'une seule journée au-dessus de 33 degrés, que je ne dise pas de bêtises, voilà, apparaît tellement négatif, c'est-à-dire aussi bien sur l'efficience de la riziculture que sur le revenu des ménages vietnamiens. Enfin, ça
donc,
fait
oui,
des...
on a trouvé avec une stratégie économétrique qu'on a menée avec Yoro Diallo et Sébastien Marchand, je vais quand même citer
vos collègues,
mes valeureux co-auteurs, qu'une journée supplémentaire au-dessus de 33 degrés générait 1% de revenus annuels en moins en moyenne par ménage. Donc c'est assez énorme. Là, on touche à une question plus technique qui est comment évaluer les dommages du changement climatique. On a beaucoup de difficultés à le faire. Et donc je veux être très prudent aussi sur ce chiffre qui nécessite des hypothèses en termes de projection climatique, de projection de l'évolution économique future qui sont fortes. Mais en tout cas, ce que nous donnent les données passées sur les variations des revenus liés au riz par rapport aux variations climatiques, c'est ce résultat-là.
Ce qui pointe assez cruellement la question des inégalités environnementale et bien sûr sociale par déduction. Vous l'avez dit, le Vietnam est particulièrement touché. Beaucoup d'autres régions, d'ailleurs les pays de cette région du Bas-Mékong sont quand même assez impactés aussi. Vous avez parlé de l'Afrique. Les inégalités face au changement climatique, c'est là encore un des grands sujets dont il faut s'occuper. Comment faire des transferts financiers entre pays du Nord, responsables quand même pour beaucoup de cette dégradation, et pays du Sud et qui en sont les premières victimes.
Alors effectivement,
on revient à la finance.
On revient à la finance. Sur cette question des inégalités, là aussi, le département de recherche de l'AFD travaille beaucoup dessus, notamment avec Anda David, mais le lien avec les changements environnementaux est complexe. Il faut voir plusieurs canaux. Il y a des inégalités d'émissions. On sait que tous les pays, évidemment, n'émettent pas du tout à la même intensité et de cette manière ne sont pas responsables des changements climatiques du tout à la même hauteur. Donc ces inégalités sont extrêmement fortes. C'est des inégalités qui sont entre pays, vous l'avez mentionné, mais ce sont aussi à l'intérieur des pays, entre déciles de revenus, c'est ce qu'on dit. Donc on sait que par exemple les 10% les plus riches de la planète sont responsables de à peu près 50% des émissions mondiales. Et on a aussi des inégalités par rapport aux impacts du changement climatique, où cette fois-ci, on peut observer que, évidemment, les plus pauvres, les plus démunis sont les plus touchés par les différents effets possibles du changement climatique. On l'observe le plus dans les pays en développement, dans les pays émergents, mais c'est prégnant en réalité partout.
Il existe un principe juridique de responsabilité, on dit responsabilité partagée mais différenciée, qui est admis normalement au sein de toutes les instances onusiennes qui sont responsables des négociations climatiques. Et on peut peut-être revenir aussi sur la COP24, la plus récente, qui a encore essayé de transformer des promesses, parce que malheureusement, on est beaucoup sur des promesses, ces fameux transferts. On parle de 100 milliards de dollars qui devraient être transférés du nord au sud. Là aussi, prudent sur les chiffres.
Alors non, effectivement, une des conditions de l'entrée en discussion des pays en développement, des pays émergents sur les sujets climatiques, c'était de reconnaître que tout le monde n'était pas sur un pied d'égalité dans la responsabilité vis-à-vis des changements climatiques.
Ce que nous disent les pays en développement depuis bien des années, d'ailleurs.
C'est ce qu'ils disent depuis bien des années, et donc ça s'est matérialisé par ce principe de responsabilité différenciée mais partagée. Et ensuite, comment le transformer en élément concret, c'est-à-dire sonnant et trébuchant cette responsabilité différenciée? Eh bien, il y a toujours eu cette question répétitive, récurrente des négociations climatiques, de transferts financiers entre pays du Nord et pays du Sud. Au moment de la COP21, c'était un chiffre de 100 milliards annuels qui devenait un minimum à partir de 2025, qui a été décidé, mais sans accord sur la manière de comptabiliser ces 100 milliards.
Ça veut dire qu'on n'y est pas du tout.
On avait
pour
repoussé le choix à plus tard, à cette COP24 justement, qui malheureusement n'a pas non plus réellement tranché la question. Donc on ne sait pas encore réellement ce que veulent dire ces 100 milliards. Certains comptabilisent des chiffres qui sont tout à fait proches. D'autres, souvent c'est les pays en développement, considèrent que en termes d'argent public pur, effectivement, nous sommes loin du compte.
Et puis il y a des pays où la situation est complexe. La Chine, par exemple, qui est devenue le pays responsable de la plus grande part des émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on peut comprendre compte tenu de sa taille, mais au niveau global, à elle seule, 26% des émissions. C'est énorme, et pourtant la Chine fait beaucoup d'efforts aussi dans ce domaine. Donc là aussi, il faut le souligner. Quant à l'Afrique, sans surprise, elle est le continent associé aux plus faibles émissions, mais elle est quand même parmi les principales victimes, avec évidemment une petite différence pour l'Afrique du Sud, de loin le plus grand émetteur de ce continent. C'est pas facile de distinguer tout cela et de...
Alors effectivement, c'est pour ça que cette question des inégalités
laisser ces pays se défendre,
est au cœur de nos préoccupations. À titre personnel, nous allons lancer un travail sur le lien entre inégalités et changements environnementaux pour tous les pays de la région du Mékong, où on va voir aussi la multiplicité. Il ne faut pas prendre seulement en compte la question du changement climatique, mais l'ensemble des changements environnementaux. Et ces changements environnementaux eux-mêmes ont parfois des origines anthropiques assez directes, qui ne sont pas forcément liées aux émissions globales de gaz à effet de serre. Mais effectivement, la Chine n'est plus, et de loin, un pays
émergent,
en développement, émergent. Elle est un nouvel acteur mondial essentiel qui reconfigure la mondialisation. Et à ce titre, on voit qu'elle a aussi une portion très importante des émissions mondiales qui représente aussi une forme de puissance géopolitique.
Oui. Et puis là, on est sur un plan plus sociologique, on va dire, mais les comportements sont très importants. Les plus riches chinois aujourd'hui n'ont qu'un désir, c'est d'imiter le comportement que nous avons eu, ou que, en tout cas, les plus riches d'entre nous observent, c'est-à-dire voyager beaucoup, consommer énormément. Voilà des motifs, un espèce de phénomène de mimétisme qui a été largement étudié et qui ajoute encore à ces inégalités interne dans les pays.
Ce phénomène de mimétisme qu'on peut observer déjà simplement à l'intérieur des pays occidentaux, avec toutes les publicités qui nous donnent comme objectif finalement d'avoir des comportements qui représentent le standard de vie des 1% ou 10% les plus riches de la population, ça pousse à une dynamique qui est peu propice à une transition bas carbone ou à une quelconque sobriété. C'est sans doute moins excusable de notre côté pour nous qui avons atteint un certain degré
de
confort que pour des pays qui, eux, connaissent seulement depuis quelques années des forts taux de croissance et effectivement un accès récent à ce confort-là.
Avec une difficulté supplémentaire qui a été mise en avant par Thomas Piketty, Lucas Chancel, qui tiennent leur agenda très précis des inégalités dans le monde, c'est que ces inégalités affaiblissent évidemment la cohésion sociale et, ce qui est aussi très préoccupant, diminuent en fait l'envie, la propension des individus à agir collectivement. C'est-à-dire qu'au fond, on arrive à des attitudes très, très individuelles. Or, comme on le voit en Europe et partout, on n'y arrivera pas s'il n'y a pas une mobilisation plus globale. Donc la diffusion des nouvelles technologies environnementales, du désir d'agir, est fortement attaquée par les inégalités. Vous le confirmez, vous l'avez retrouvé d'une autre manière dans vos travaux.
Oui, alors là, on retouche à un sujet qu'on a un tout petit peu abordé sur la question de comment mobiliser finalement pour ces transformations. Et effectivement, si tout le monde a, chacun individuellement, a l'objectif d'avoir le standard de vie des 1% les plus riches, c'est peu propice à une mobilisation collective qui permettrait de défendre les transformations environnementales nécessaires.
Au moins d'atteindre les objectifs de Paris, ce qui serait déjà pas mal. Sur le rôle du politique, Étienne Espagne, qu'en attendez-vous, vous, les économistes qui travaillez de près sur ces questions, le raisonnement, un peu le sens de une planification qu'est-ce qui est attendu? On a parlé des progrès quand même effectués depuis 2015.
Rien n'est possible.
Au niveau européen, déjà.
Rien n'est possible sans le politique.
Évidemment.
Ça, c'est clair. Et la question, c'est de quelle manière le politique répond aux attentes des citoyens aussi. On a des motifs d'espoir avec des élections européennes qui ont mis relativement en avant les partis verts, pas seulement en France, mais plus largement en Europe. Après, il ne faut pas perdre de vue que tous les partis aujourd'hui ont une composante forte environnementale. Et je dirais qu'il faut plutôt remettre du politique dans les questions écologiques et environnementales que considérer qu'il y a une espèce de consensus général sur les méthodes à appliquer. Il faut débattre de ces méthodes et donc remettre du politique.
Étienne Espagne, sur cette réorientation des flux financiers, on se dit aussi que si tout de même les investissements vont très vite dans un autre sens, si la transition est très brutale, ça peut leur coûter extrêmement cher. Donc comment prévenir cela? Je veux dire, puisque dans la mesure où ils sont tellement, tellement liés à l'extraction des énergies fossiles.
Je l'évoquais tout début
on en a conscience
avec
ce
discours de Marc Carnet. Marc Carnet met en évidence trois types de risques que les changements climatiques et les politiques climatiques peuvent faire porter au système financier. Le risque physique, on imagine bien, c'est le typhon qui détruit un actif physique. Le risque de transition, c'est celui dont vous parlez en réalité, l'idée que si la transition survient trop rapidement ou trop tardivement, alors elle entraînerait une dépréciation très forte d'un certain nombre d'actifs financiers.
Oui, tout simplement,
une dévalorisation très rapide.
Du capital des entreprises,
des investisseurs. Et donc en fait, il y a une réflexion à avoir sur des stratégies de dévalorisation de capitaux d'entreprise, parce que certains capitaux devront être d'une certaine manière dévalorisés. Il faut imaginer des politiques publiques spécifiques pour ces cas-là.
Quel peut être le rôle des banques d'affaires internationales? Ce sont elles, au fond, qui dominent cette finance dont nous parlons, bien plus que les banques publiques.
Effectivement, aujourd'hui, ce sont elles qui dominent. Elles dominent, on va dire, un modèle de finance anglo-saxonne, face auquel on a un autre modèle, un autre pôle qui émerge, et Michel Aglietta en parle beaucoup, c'est ce pôle chinois où là on a un contrôle politique beaucoup plus fort sur les orientations des investissements et des financements. On est un peu dans un entre-deux aujourd'hui, avec d'un côté une espèce d'auto-régulation de ce secteur de la finance des banques internationales, avec la promotion d'une transparence volontaire de l'information sur le contenu carbone des actifs financiers, et de l'autre côté un autre modèle, on va dire, qui émerge et qui est celui d'une finance beaucoup plus publique, avec des objectifs publics déterminés, et qui est en train d'émerger très fortement, notamment au travers de ces routes de la soie qui redessinent la mondialisation.
Un mot encore pour la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui a bien pris le virage de votre point de vue?
La BCE n'a pas encore complètement, sans doute, pris le virage.
Je me permets de citer le pacte finance-climat qui est réclamé par certains économistes et climatologues, dont Jean Jouzel du GIEC, et qui aimerait bien que les 1000 milliards d'euros, enfin de dollars, peu importe, qui ont été trouvés pour sauver les banques soient maintenant...
Effectivement.
Dévolu au climat, qu'en pensez-vous?
Au début de cette politique de quantitative easing en 2015, nous avions, avec Michel Aglietta et puis avec Baptiste Perry-Saint-Faber, fait une proposition qui était aussi défendue par Jean-Charles Ourcade sur une orientation un peu forcée de ce financement par la Banque centrale des économies vers des actifs bas carbone. Ça n'a pas été la direction prise et on a vu ensuite, à travers d'un certain nombre d'analyses, que la plupart des flux de financement issus des banques centrales étaient plutôt allés vers des secteurs intenses en carbone parce que tout simplement ils constituent la réalité de l'économie européenne aujourd'hui. Donc le virage n'est pas encore pris. Je pense que le virage est en train de se prendre quand même, avec des difficultés liées à une certaine rigidité institutionnelle des institutions européennes aujourd'hui. Il se prend aussi dans les autres institutions internationales telles que le FMI, la Banque mondiale, etc., de plus en plus rapidement parce que il y a cette urgence qui est présente et aujourd'hui, il n'est pas bon d'afficher que nous n'avons rien à dire sur le changement climatique, même quand on est un banquier central. Donc les banques centrales se sont organisées en réseau pour parler du changement climatique, pour mener des analyses, pour essayer de proposer sans doute aussi des formes de régulation.
C'est très notable pour le FMI. Allez, restons optimistes. Donc vous l'êtes, Tiens Espagne, pour la suite?
Ah, toujours.
Toujours, merci. C'est ainsi que nous conclurons. Merci d'être venu. Et oui, tout va très vite et c'est ainsi que nous concluons notre série pour les matières à penser. Avec notre petite équipe Anne-Laure Chanel, merci à elle pour la réalisation pendant toute cette année, en compagnie ce soir de Cédric Châtelut, Catherine Donnet bien sûr et Sandrine Chaperon, avec notre stagiaire Joséphine Lampreya. Pour la préparation, pour la documentation, beaucoup de travaux d'ailleurs d'Étienne Espagne, notre invité de ce soir, et nos autres invités de la semaine, à retrouver sur notre site. Et nous vous saluons, nous vous souhaitons à tous un très très bel été et très bonne soirée.